Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous conduire dans sa parole. Père, nous te bénissons et te louons parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton esprit. Et Seigneur, grâce à ton esprit, nous pouvons sentir ta présence, mais nous pouvons aussi comprendre ta parole. Parce que Seigneur, tu mets en nous le vouloir et le faire selon tes desseins, tes plans bienveillants, et nous te remercions pour ce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous accompagnes chaque jour, et tu nous donnes ta grâce. Que toute la louange te revienne, Père, au nom de Jésus. Ouvre nos oreilles ce matin pour comprendre et mettre en pratique ta parole. Amen. Amen. J'aimerais poursuivre un peu le thème que j'ai développé ces dimanches passés sur l'avènement de l'Antéchrist ou de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est contre Christ et l'Antéchrist, c'est avant Christ. Avant le retour de Christ, il est dit que nous serons enlevés avec le Seigneur et nous reviendrons avec lui pour l'établissement de Christ sur la terre, du règne de Christ sur la terre. Le plan de Dieu, nous le connaissons, il est révélé dans sa parole. Nous ne connaissons pas l'heure, le moment. Tous ceux qui ont voulu s'employer à donner ces dates ont dû se rétracter d'une manière plus ou moins astucieuse, mais n'empêche que on peut jamais donner de date, et chaque fois que vous entendez des dates, n'y croyez pas, parce que c'est contraire à l'écriture. Par contre, on peut connaître les périodes, enfin les temps dans lesquels nous sommes. Jésus a donné ces temps. Le problème, il faut se méfier des temps, parce que il y a parfois des temps, on a l'impression que c'est arrivé. Je prends juste un exemple. Vous savez, peut-être vous en rappelez, quand on a approché de l'an 2000, il y a eu le bug informatique. Le bug informatique a été annoncé comme quoi c'est une catastrophe, tous les ordinateurs allaient s'arrêter, enfin bref, et on a spiritualisé là-dessus. Et en fait, c'est pas du tout arrivé, c'est bon parce que les gens avaient pris leur disposition, les informaticiens quand même sont pas non plus des gens butés. Donc les choses ont été prises en main et ça s'est pas passé. Donc il faut faire très attention. Si vous prenez l'an 1000, tous les 1000 ans, c'est toujours un peu des périodes d'angoisse. L'an 1000, il y a des choses aussi qui sont arrivées, j'ai étudié un peu la question. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement pour dire attention à la spiritualisation de certaines choses. Ceci étant, il y a quand même des choses objectives qui nous sont données. Et pour vous, je suis très interactif, donc j'aime bien aussi vous écouter aussi pendant les messages, parce que ça me permet d'insister parfois sur des points sur lesquels je peux aller plus ou moins vite, suivant que je vois votre réponse. Quel est pour vous le point objectif le plus évident de ce que nous sommes dans la fin des temps? Qu'est-ce que vous diriez, si la question vous était posée comme ce matin, quel était le point le plus objectif? Vous voyez, l'horloge ici, là, bon, c'est midi moins 20, mais souvent on dessine une horloge en disant, ça y est, on arrive à l'heure de Dieu. Et qu'est-ce qui peut nous dire qu'on est dans les minutes, disons, de la venue de Jésus? Temps de la moisson? Oui, c'est Israël. C'est Israël. Parce que le temps de la moisson, on peut relativiser. Bon, il y a toujours des temps de moisson, etc. Bon, on peut se tromper, suivant qu'on met l'accent sur... voilà, c'est la moisson maintenant. Israël, on peut pas se tromper. Pourquoi est-ce qu'on peut pas se tromper? Ça a l'air de vous étonner, la réponse d'Israël, non? Donc je vous écoute. Pourquoi est-ce qu'on peut pas se tromper sur Israël? Quels sont les éléments évidents d'Israël? Oui, l'État d'Israël. L'État d'Israël a été... 48. Voilà, 48. Vous savez, moi, j'ai l'avantage sur vous parce que je suis né en 48, donc je ne peux pas l'oublier, ça. 48, l'État d'Israël a été créé malgré l'opposition de toutes les nations, qui ne voulaient pas que ça arrive. Et déjà 100 ans avant, il y avait fondateur... qui avait eu cette vision, Dieu lui a parlé qu'il fallait revenir en Israël. Avant même que les nazis ont fait leur tout ce qu'ils ont pu perpétrer contre les juifs, il y avait une montée dans le cœur du peuple d'Israël, après 2000 ans, hein, 2000 ans, hein, c'est pas 200 ans, après 2000 ans de dispersion, ils auraient pu chercher à le faire avant, il y a eu des tentatives d'ailleurs de revenir en Israël avant, mais c'était pas le temps de Dieu. À un moment donné, vous savez, quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu dispose les choses pour que ça se passe. Et en 48, ça s'est passé. Je vous passe les détails, mais je vous invite, en tout cas, à vous pencher sur cette question d'Israël, si vous l'avez jamais fait en tant que chrétien, parce que vous serez étonné de voir comment Dieu agit. C'est comme ça, moi, je me suis converti. Quand un ami m'a parlé comment Israël a combattu avec le peu de moyens qu'ils avaient contre toutes les forces et les puissances qu'il y avait contre Israël pour son établissement. Et ça, Jésus l'a dit. Il a dit quand le figuier refleurira, là, vous pouvez lever vos têtes parce que le temps est proche. Donc nous sommes dans les temps de la fin, dans les derniers temps de la fin. Vous savez, quand on parle des temps de la fin, déjà les apôtres ont dit, vous êtes dans les temps de la fin. Donc, mais il y a des temps de la fin, à un moment donné, on aura la fin de la fin. Voyez. Donc on est dans ces temps-là où Jésus va revenir. Donc nous sommes privilégiés de voir ça. Vous savez, on peut se plaindre, bon, on a parfois de quoi se plaindre, mais ne nous plaignons pas comme les gens du monde, qui n'ont pas d'espérance. Même s'il y a une crise, le Seigneur il n'est pas limité par la crise, il peut nous donner en abondance même dans la crise. Regardez Élie. Il y avait la famine en Israël et Dieu l'a conduit. Il peut nous envoyer des corbeaux, il peut nous envoyer remplir les cruches, il peut tout faire. Amen. Donc ne soyons pas limités par les choses que nous voyons, mais regardez les choses réelles, les réalités. D'ailleurs, la vue, il y a une réalité. C'est la réalité du royaume de Dieu. Donc, nous sommes dans ces temps de la fin. Mais il y a autre chose. Donc, moi, c'est Israël hein, qui est le point fondamental de cette espérance de ce que nous vivons aujourd'hui. Et malgré la férocité du peuple arabe qui veut les jeter à la mer, eh bien, ils n'y arriveront pas parce que c'est un problème spirituel. Et Dieu tient les choses en main. Il y a d'autres indices qui nous aident à comprendre, et c'est lesquels ? C'est ceux que nous avons étudiés depuis deux dimanches. L'arrivée de l'apostasie. Hein ? Donc, ça, c'est l'autre élément qui est très fort. L'arrivée de l'apostasie. Et quoi encore ? Et l'anomie. Hein, c'est du grec. Voilà. L'anomie, c'est la loi. Donc, l'homme sans loi. Donc deux éléments qui vont monter dans ces temps de la fin que nous vivons de manière mondiale, hein, non pas de manière avant le monde n'avait pas Internet. Internet c'est quoi? C'est un réseau qui permet à tous les hommes de communiquer en même temps. Vous voyez, ça n'a jamais existé. Ce sont les routes. À l'époque des Romains, il y avait les routes physiques et à notre époque, c'est les routes qui sont numériques. Hein. Donc on peut communiquer en un instant, une seconde, ensemble. Et donc dans ces temps de la fin, il y a une montée de l'apostasie et une montée de l'anomie, du sans-loi. Ici, ça concerne quel type de population, l'apostasie? Ce sont l'Église. Et ici, bon, c'est les États, si vous voulez. L'État, c'est ce qui constitue la direction des peuples. Et les États vont aller de plus en plus vers de l'anomie et les églises de plus en plus vers de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? Pardon? Voilà, c'est le renoncement de la foi, plus que la perte. Hein, parce qu'on peut perdre ses clés, mais la foi, il faut vraiment le faire exprès pour le perdre, parce qu'on ne peut pas perdre la foi comme ça. Hein. Tu peux perdre la foi, toi, Laurence? Hein? Moi, j'étais étonné. Quand on se rencontrait, enfin, on se continuait à se rencontrer tous les ans avec des chrétiens, il y avait une chrétienne de l'église réformée de Mantes qui remplaçait le pasteur, parce qu'il n'y avait pas de pasteur, et remplaçait le pasteur. Et puis, Un ou deux ans après, je ne l'ai pas revu dans les rassemblements, puis je l'ai rencontré à Carrefour, et puis je l'ai salué, je dis alors ça va? Elle dit non, non. Oui, ça va, mais j'ai perdu la foi. Je dis bon, ça se perd comme ça, la foi. Voilà, donc voilà, elle ne venait plus parce qu'elle a perdu la foi. Je crois qu'on ne peut pas perdre la foi. Hein. Si on connaît notre Seigneur, c'est pas comme si Dominique disait, tiens, j'ai perdu ma femme, bon, elle est à côté de moi. Ouais, je veux dire, ça se sait hein, quand on perd quelque chose. Mais c'est pour montrer que, voyez-vous, la foi, c'est quelque chose, une confiance dans quelqu'un qu'on connaît. Hein, confiance en Dieu. Quand on connaît Dieu, on ne peut pas comme ça ne plus le connaître d'un seul coup. C'est parce qu'on l'a mal connu. Ça, c'est autre chose. Okay. Donc l'apostasie, ça concerne l'Église. Et l'anomie, ça concerne le civil, enfin les États. Hein. Ceux qui veulent donner plus de liberté aux gens, au don de la liberté. Voyez-vous, tout ça, c'est préparé hein, d'avance. L'ennemi prépare les choses d'avance. Liberté, égalité, fraternité. Hein. La liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. Hein. Imaginez que Roberto, il a envie de faire ce qu'il veut. Il va chez son voisin, il rentre chez lui en pleine nuit. Voilà. Mais c'est ça, la liberté. Non, la liberté, c'est de respecter l'autre. Vous voyez. Donc, il faut des lois. Or, de plus en plus, les États, sous la pression bien sûr des lobbies et tout ça, veulent donner des libertés. Et la liberté, ça veut dire tu fais ce que tu veux, toi tu fais ce que tu veux. Alors bien sûr, on a des problèmes, on essaie de les gérer, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on gère? On gère la misère, quoi. Hein, mais la loi, c'est quelque chose qui nous donne une liberté quand on respecte les lois. Et c'est pour ça que Dieu permet qu'il y ait des gouvernements. Mais ces gouvernements, petit à petit, c'est d'élite parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Parce que les pouvoirs sont plus au niveau des nations, ils sont au niveau de la finance, comme vous le savez tous, finance internationale. C'est Mammon qui régit les choses. Alors je voudrais juste dire en quoi nous pouvons résister à cela. Hein. Ce qui est important, bon, même si nous savons ça, c'est comment récupérer la foi et comment agir au niveau de la loi. Enfin, comment ne pas tomber dans cette anomie, hein, ou cette antinomie, encore pire. On va lire Romains 2, mais pas tout Romains 2, parce que... Enfin, je vais déjà vous expliquer ce que c'est que Romains 2. Alors, ceux qui font les écoles bibliques, hein, ils apprennent ce que c'est que Romains 1, Romains 2, Romains 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, parce que Romains, c'est un peu comme... C'est l'encyclopédie résumée de tout l'Évangile. Hein. Donc, vous avez une progression dans Romains qui vous permet de comprendre un peu le message de l'Évangile. Et Romains 2... quand l'apôtre l'a écrit, eh bien, il a voulu parler de l'importance de la loi. L'importance de la loi. Et très souvent, on minimise, enfin, les chrétiens. Pourquoi? Parce que on met l'accent sur la grâce. Bon. De toute façon, tout est vrai. Hein, la grâce est importante. La foi, la loi est importante. Nous vivons sous la grâce aujourd'hui, tout simplement, parce que Dieu a vu qu'on ne pouvait pas respecter la loi de Dieu. Et donc, il nous a fait grâce en nous donnant Jésus. Hein. Donc, nous avons une grâce, nous sommes des gens pleins de grâce, grâce à Jésus. Mais très souvent, on oppose, alors qu'il n'y a rien à opposer, hein, entre grâce et loi. Hein. Il n'y a rien à opposer parce que la loi, elle est toujours la base du fondement du trône de Dieu. Hein. Il est basé sur la loi. Hein. Dieu gouverne par ses lois, hein, tout l'univers. Mais donc, il n'y a pas lieu de les opposer. Il faut bien comprendre que la loi est toujours en vigueur. Et là, Paul en parle de manière magistrale. Hein. Il dit, toi qui es inexcusable, chapitre 2 des Romains, verset 1er, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Et ensuite, après, il développe, il parle que, au verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi qui seront justifiés. Et quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, leur raisonnement les accuse et les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Alors bon, ça peut paraître un peu compliqué, hein, la manière dont Paul s'exprime, mais en fait c'est très simple. Hein. J'ai essayé de vous simplifier Paul au maximum pour que vous puissiez comprendre les choses. Alors pour moi, j'aime bien les modèles, hein, parce qu'au travail, on ne peut pas faire quoi que ce soit sans modèle. Hein. Si aujourd'hui on n'avait pas de modèle, on ne pourrait pas sortir les voitures, on ne pourrait pas sortir les fusées, rien du tout. Donc il faut des modèles de compréhension de la réalité qui est derrière les choses. Et au niveau de théologie, on a aussi des modèles. Je voudrais vous présenter ce modèle pour que vous puissiez bien l'intégrer, pour comprendre pourquoi on peut tomber dans l'apostasie et dans l'anomie. Le modèle qui est classique, c'est celui qui est dans le torrent qui purifie, pour ceux qui ont fait le torrent qui purifie, hein, où on présente l'homme comme un être, bien sûr, spirituel, puisque Dieu nous a créés, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes spirituels. Et c'est pour ça que Dieu veut renouveler en nous le spirituel, pour que nous soyons en relation avec lui, par notre esprit. Mais nous sommes aussi psychiques, c'est-à-dire nous avons une âme et nous avons un corps. Donc il y a les trois niveaux, hein, l'esprit, l'âme et le corps. C'est la compréhension de notre existence, de qui nous sommes en tant que modèle. Si je développe l'âme, hein, ce qui en général est utilisé, c'est le fait que nous sommes dans l'âme, il y a la pensée, il y a les émotions, hein, ce que nous ressentons, et il y a la volonté. Personnellement, j'en rajoute un quatrième, c'est pour ça que mon modèle est un petit peu plus compliqué. Un quatrième qui est la conscience. Hein, conscience. Donc il y a toujours la pensée, les émotions et la volonté. Pourquoi je rajoute la conscience? Parce que Paul en parle et la parole de Dieu en parle longtemps, enfin très souvent, la conscience. Et elle montre que ceux qui ont perdu la conscience peuvent aller dans l'anomie, justement, peuvent aller contre Dieu. Hein. Et la conscience, elle peut être cautérisée. Vous savez, quand on marque les chevaux, on prend le fer rouge pour les marquer. Et la parole de Dieu dit qu'il y en a qui sont marqués au fer rouge dans leur conscience. Et quand vous prenez une marque comme ça au fer rouge, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez ça sur la main, par exemple? Ben vous brûlez tous les nerfs. Okay, et donc, vous vous sentez plus rien à cet endroit-là. Et l'idée, c'est que quand vous marquez au fer rouge, eh bien, vous ne ressentez plus rien. Donc, vous pouvez agir sans que vous puissiez réagir. Voyez. Et l'ennemi veut effectivement jouer sur notre conscience. La conscience, c'est une petite voix qui en nous dit c'est bien, c'est mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la conscience. On a tous reçu une petite voix en nous qui nous dit c'est bien, c'est mal. Et c'est ce que Paul dit. Il dit le païen qui ne connaît pas Dieu, il a une conscience. Pourquoi? Parce que Dieu est un être moral. Un être moral, c'est quelqu'un qui sait ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est un être moral. Et nous sommes des êtres moraux. C'est-à-dire que, contrairement à l'animal, un animal, vous avez vu, là, j'ai un chien un petit peu foufou en ce moment, on vient de l'avoir, il est tout gentil et tout ça. Mais il ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal, parce que ce n'est pas un être moral. C'est l'homme et la femme, qui sont des êtres moraux. C'est pour ça que nous sommes au-dessus de la création. Voyez-vous, un peu comme ce que Dieu a créé, en dernier, il a créé l'homme et la femme, parce que nous sommes des êtres moraux. Nous sommes supposer, savoir ce qui est bien et mal, parce que Dieu a mis en nous la conscience. Hello? Vous suivez? C'est pas trop compliqué? C'est simplement ce que Paul dit. Hein? Paul dit, celui qui n'a pas entendu parler de l'évangile, il y en a de moins en moins en ce moment, parce que l'évangile est prêché même dans les tribus reculées. Mais admettons qu'il y en ait qui n'aient absolument pas entendu l'évangile, ils savent naturellement ce qui est bien et ce qui est mal. Alors maintenant, on le fait. On ne le fait pas, on n'y arrive pas, c'est autre chose. Mais la conscience, c'est une petite voix qui dit ça. Alors, il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Moi, j'ai beaucoup apprécié John White, pour ceux qui connaissent cette lecture, qui est un psychiatre chrétien qui a vécu à Vancouver, au Canada, et qui explique beaucoup cette voie de la conscience. Et comment il joue sur la repentance. Et pourquoi certaines personnes peuvent plus se repentir ? Parce que leur conscience ne leur dit plus ce qui est bien et mal. Et ceux qui jouent beaucoup là-dessus, pour faire des gens, des bêtes, vous voyez, qui sont prêts à faire des choses mauvaises. C'est les satanistes en particulier. Si vous avez lu ou des choses comme ça, comme Manson et autres, vous voyez, qui aux États-Unis ont fait des choses atroces, qui sont des satanistes, ils jouent sur la conscience. Et comment est-ce qu'ils jouent sur la conscience ? Eh bien, dans leurs rituels, dans leurs choses, etc., ils font faire aux hommes et aux femmes qui sont sur leur joug des choses qui sont que vous ne feriez pas. Est-ce que vous mangeriez des excréments naturellement, vos propres excréments? Bon, ben, ils font ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent que la conscience, petit à petit, ne leur dise plus que c'est mal. Et ils s'obligent à faire des choses petit à petit, voyez-vous, ça monte en puissance, mais c'est dans leur rituel, pour que l'homme devienne un animal, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il arrive à faire un monnaie. C'est-à-dire quand le gourou leur dit, mais maintenant, vous tuez, la personne y tue, quoi. Je veux dire, la conscience ne dit plus que c'est mal. Vous voyez, c'est en vue d'un objectif, vous voyez. Donc, il prépare ça. Et c'est pour ça, des fois, vous entendez des scandales. Ah, il s'est passé ça, comment ça se fait? Ben, voilà, il y a une progression. Parce que la conscience est atteinte et elle ne parle plus. Dieu nous donne une conscience. Et cette conscience, il faut que nous la gardions avivée, voyez-vous. Il faut qu'elle continue à nous parler. Hein. Et la conscience est très très sensible à l'Esprit de Dieu. Hein. Il y a des gens qui sentent l'Esprit de Dieu, qui leur disent ça c'est bien, ça c'est mal. Eh bien c'est bien, il faut garder une conscience qui vous dise si c'est bien, c'est mal, parce que ça vous protège. Et ça vous évite de tomber dans l'anomie, voyez-vous. Parce que petit à petit, l'ennemi, il joue là-dessus. Il joue au niveau mondial, hein, ce qu'on appelle le Nouvel Âge. Il joue dans cette religion moderne sur le fait que vous pouvez faire ça, pas de problème. Alors, c'est des philosophies très sournoises, très subtiles, mais qui jouent sur la conscience de manière à ce que vous puissiez faire des choses que vous ne feriez pas. Et c'est ce qu'on voit dans les églises évangéliques, pardon. Où des gens, quand la louange, dans toutes sortes de choses, bon, petit à petit, il y a des glissades, des glissements, vous voyez, où, parce que la conscience, à un moment donné, elle est cautérisée. Hein, parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de nous amener dans l'apostasie. Que les églises soient dans l'apostasie. Alors, je vais vous montrer le modèle qui est un peu plus ludique que celui-là, que j'ai dans la tête, qui est celui où le Seigneur nous a donné un cœur. Hein, nous avons tous un cœur. Hein, qui est le centre de notre personne, qui veut être rempli par le Saint-Esprit. Et où c'est un peu comme dans l'Ancien Testament, où il y a le Saint des Saints, le lieu saint, le parvis, et ensuite l'ensemble du peuple de Dieu qui est en Israël. Hein. Et de la même manière, Dieu veut que nous qui sommes la maison de Dieu, les pierres vivantes, Dieu veut que notre centre soit à Jésus. Hein. Le centre, le cœur, dans l'acception d'Israël, dans l'acception juive, dans l'acception biblique, a toujours voulu être le centre de la personne. Vous voyez, c'est pas le cœur physique, mais quand on parle du cœur au niveau biblique, c'est le centre de la personne, qui nous sommes réellement, notre identité réelle. Et notre identité réelle doit être remplie par le Saint-Esprit. Voyez-vous ? Et quand nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit en nous, ce qu'il faut, c'est lui laisser de plus en plus de place. Okay. Donc, c'est que notre âme, hein, qui est autour, puisse être remplie du Saint-Esprit. Et c'est le premier cours du torrent qui purifie, marcher par l'Esprit, ne marcher pas par la chair, etc. Donc, je mettrai de chaque côté ici, par exemple, je mettrai les pensées. Vous voyez, que nos pensées soient toujours en Jésus-Christ. Hein. Que nos expériences, nos sentiments, nos émotions soient toujours en Jésus-Christ. Hein. que notre conscience soit toujours sensible à ce qui est bien, ce qui est mal, pour que nous puissions toujours choisir le bien. Et ici, notre volonté qui est le faire, qu'est-ce que nous faisons? Parce que là, j'ai pas le temps ce matin de développer tout le message. Dieu dit, il y a un jugement. Et les chrétiens seront jugés. Les chrétiens, comme les inconvertis, nous serons jugés. Nous passerons en jugement. La seule différence qu'il y aura au moment du jugement dernier, où nous passerons devant le trône de la justice de Dieu, c'est que Jésus, qui est à côté, qui sera à côté du Père, il prendra la parole lorsque nous aurons, quand nous aurons passé par les eaux du baptême et que nous témoignons de notre foi, il pourra dire, lui, il a pris position pour moi, pour le sacrifice que j'ai fait. Et le Père dira, ok, toi tu peux passer à droite, parce que le jugement a passé au-dessus de toi, Jésus a pris ta place. Vous voyez, c'est toute la différence. Donc, par la foi, c'est pour ça que nous avons besoin d'exercer la foi, pour ne pas passer, pour ne pas être jugé, condamné, pour ne pas être condamné. Parce qu'au moment où nous avons la foi toute notre vie avec le Seigneur, cette foi nous permettra au moment du jugement d'être défendu par Jésus, qui est celui qui a été la victime expiatoire. Mais dans tous les cas, ce que nous aurons fait, même étant chrétiens, nous serons jugés. Voyez-vous ? Sur les faits, pas sur les intentions. L'intention, c'est quoi ? L'intention, ça peut démarrer dans les pensées. Nous avons une bonne intention. Okay ? Mais parfois, nous n'allons pas jusqu'au bout. Prenez le pardon, par exemple. Il y a des gens qui ont l'envie de pardonner, mais leurs émotions sont très fortes vis-à-vis d'une personne qu'elle devrait pardonner, des blessures sont encore là, et ne peuvent pas, parce qu'elles sont bloquées. Et encore moins de le faire, parce que si déjà ça bloque ici, au niveau des émotions, eh bien, ils ne pourront pas aller à l'acte. Il faut aller jusqu'à l'acte, voyez-vous, parce que c'est sur les actes que nous serons jugés, pas sur nos intentions, ni sur nos expériences émotives, mais sur les actes. Et c'est ce que dit le chapitre 2 des Romains. Le problème souvent, c'est que quand nous démarrons sur une pensée, l'expérience aidant, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout. Nous sommes chrétiens, je parle d'un chrétien. Le chrétien, il sait qu'il doit pardonner, mais qu'il ne le fait pas. Ici, il est bloqué par l'expérience, qui peut être son expérience de blocage. Si c'est qu'il doit être chrétien, parce que sa conscience quand même lui parle, dit attends, c'est pas bien ce que tu fais, et s'il veut pas jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Il se développe une hypocrisie, donc on devient pharisien, parce que on va dire avec notre bouche on pardonne et on le fait pas dans le cœur. Et comme c'est les actes qui comptent, en fait on va pas jusqu'au bout, et là on développe une hypocrisie et on devient hypocrite, voyez-vous, parce que le processus n'est pas complet. Et c'est ça qui est le pire qui peut arriver et qui nous amène dans l'apostasie. Donc c'est un danger qui nous menace. C'est pour ça que, en tant que chrétien, il faut être simple. Pas simplet, simple. C'est différent. Simple. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande, la parole de Dieu nous demande une chose, et bien je le fais, point barre. Vous voyez, je reste humble. Je n'essaie pas de développer une spiritualité qui va masquer ce que je ne fais pas. Vous voyez, je le fais, je ne le fais pas. Vous voyez, et si vous restez simple, vous êtes gardé. Vous êtes gardé parce que les frères et sœurs peuvent dire, tiens, tu n'as pas fait ça, parce que vous n'avez pas développé une façon de cacher les choses. Vous voyez. Le pire, c'est d'essayer de cacher les choses alors qu'elles sont évidentes. Mais vis-à-vis de vous, vous avez l'impression que vous avez fait les choses. Donc gardons-nous vraiment de cacher les choses. Alors pour revenir à ce modèle, vous allez comprendre où je veux en venir. Dans Romains 3, 31, donc là, après le chapitre 2, il y a le chapitre 3. Et le chapitre 3, Paul développe le privilège des Juifs. Privilège des Juifs qui est d'avoir été choisi comme peuple de Dieu. Mais ce privilège ne suffit pas si on s'appuie sur le privilège. Puisque Dieu avait un autre plan. Il n'avait pas simplement le plan d'appeler les Juifs comme peuple de Dieu. Mais en fait, il les avait prévus comme peuple prophétique. Et que l'idée, c'est de sauver tous les hommes, pas simplement les juifs, c'est une progression. Et donc les juifs aussi sont tombés dans le panneau de penser qu'ils étaient tellement bien qu'au travers de la circoncision, et au moment où les chrétiens sont arrivés avec la résurrection de Jésus, que les chrétiens sont levés, les païens, les juifs commençaient à être jaloux. Parce que quand on est dans un système d'hypocrisie, on essaye de bétonner, de verrouiller les privilèges qu'on a. Hein. Bah oui, c'est le problème de la France. Hein. Il y a tellement de privilèges que dès que le gouvernement veut changer quelque chose, tout le monde est dans la rue. Donc, c'est bloqué. Hein. On ne peut rien changer. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, en tout cas les juifs l'ont fait, et nous on est pareil, ils veulent bloquer les privilèges, et à ce moment-là, on devient hypocrite. Et voilà ce que dit l'apôtre au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, verset 31. Je vais lire le verset 30. « Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis, donc les juifs, et au moyen de la foi les incirconcis, donc les païens, est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi ? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. » Voilà, là c'est clair, net et précis. Il n'est pas question de rejeter la loi. Nous confirmons la loi, mais comme le dira, si vous avez d'autres versions plus paraphrasées, nous donnons du sens à la loi. Hein, je crois que c'est dans cette traduction que j'ai, chapitre 3, verset 31. Je vais relire. La loi abolit-elle la loi ? Non, la foi, pardon. La foi, est-ce qu'elle abolit la loi ? Ou bien utilisons-nous la foi pour ôter sa valeur à l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance ? Au contraire, nous confirmons la loi et nous lui rendons son vrai sens. Rappelez-vous, je parle de l'anomie, hein, de ce qui va arriver pour l'homme sans loi, l'homme impie. Donc c'est la loi. Et là, il dit, non, nous confirmons la loi et nous lui rendons son vrai sens. C'est quoi le vrai sens de la loi ? C'est ça que Paul voulait démontrer dans les deux chapitres 2 et 3. Le vrai sens de la loi. C'est ce modèle. Okay ? Dans ce modèle, les pensées, vous les avez, les pensées de Dieu, hein, pour nous, qui veut nous imputer, vous les avez dans la loi que Dieu a donnée au Sinaï. Vous vous rappelez les 10 commandements ? C'est écrit dans quel livre de la Bible ? Dans Exode. Exode, hein, Exode, c'est la fuite. Hein. Quand ils ont fui de l'Égypte, quand ils sont sortis de l'esclavage, les Juifs, ils ont reçu la loi. Et qui est-ce qui leur a donné la loi ? C'est Dieu. Comment est-ce qu'il l'a fait ? Pardon ? Directement. Dieu directement, il n'est pas passé par un intermédiaire. Il a écrit avec son doigt, il a écrit dans les tables de pierre. Okay ? Aujourd'hui, il écrit dans les tables de chair, notre cœur. Mais il a commencé par écrire sur les tables de pierre. Moïse était juste, il tenait les tables. Mais c'est Dieu qui a écrit, rappelez-vous ça. Okay ? Donc la loi a été donnée par Dieu. Alors ? Donc la première pensée, c'est la loi donc dans Exode. La deuxième fois que la loi a été donnée, c'était où ? Dans quel livre ? Alors, c'est quoi l'écriture ? Quand Jésus dit l'écriture, il est écrit. Quand il a eu le combat avec Satan, il a dit il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quelle est la deuxième fois où on a reçu la loi. Ah oui, c'est comme la palisse, hein. Le plus simple, c'est le mieux. Hein. C'est la deuxième loi, c'est le Deutéronome. Deutéronome. Ok ? Nome, c'est loi, grec, en grec, Deutéronome, deuxième loi. Voilà. Et c'est simple comme bonjour. Dieu a donné sa pensée en direct. C'est la pensée directe de Dieu. Voyez-vous, nous on a des pensées, on commence par les pensées. C'est les pensées de Dieu pour. Il les a données direct. Deuxième fois, Deutéronome. Le Deutéronome, c'est pas Dieu qu'il a écrit. C'est qui l'a écrit, le Deutéronome ? Moïse. Il y a une petite différence. Et dans le Deutéronome, alors il y a des lois, les premières lois du Sinaï, c'est des lois absolues, 10 commandements, absolus. Je veux dire, là, vous prenez tous, tu ne tueras pas. Le premier, tu n'adoreras que Dieu seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a des idoles. Donc, vous voyez, il y a des absolus, 10 commandements. Deutéronome, qu'est-ce qu'il y a comme loi ? Il n'y a pas que des lois absolues. Pardon ? Ah, c'est exact. Dans le Deutéronome, vous avez une reprise, bien sûr, des 10 commandements, mais il y a l'expérience d'Israël qui va avec. L'expérience d'Israël. Vous voyez, on est dans les émotions. On est dans l'expérience. Ici, on est dans l'âme, hein, dans l'expérience. L'âme d'Israël, l'âme du peuple juif, ils avaient besoin de lois complémentaires. Et c'est pour ça le Lévitique, le Deutéronome, il y en a beaucoup. Il y a des chrétiens qui veulent le suivre, le Deutéronome. Je vous souhaite bien du plaisir. Hein. Parce que dans ces lois-là, c'est relatif à ce qu'ils ont vécu à l'époque. Okay ? Aujourd'hui, la loi française, heureusement que ce n'est pas le Deutéronome. Il y a des lois qui tiennent compte de la vie aussi de l'époque. Voyez, donc, si les chrétiens veulent suivre, parce que ben, c'est biblique et qu'ils ne comprennent pas ça, ils vont dans le mur. Quoi. Et à tel point qu'on trouve des aberrations chez des chrétiens qui veulent suivre ça. Parce que le Deutéronome, c'est dans la partie expérimentale, dans la partie qui peut changer. Il y a 2000 ans, il y a des lois qui sont différentes d'aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet. Il y avait Internet au temps des Romains. Bon, donc il faut bien des lois qui gèrent Internet, vous voyez. Parce que dans la conscience, il y a le bien et le mal. Il y a toujours du bien et du mal en toute chose. Hein. Internet, c'est un outil formidable pour nous, en tant que chrétiens. Mais c'est aussi des choses qui font beaucoup de mal quand c'est mal utilisé. Et donc le Deutéronome, c'est un peu le complément pour adapter par rapport à la pensée de Dieu les choses actuelles. Alors ? Voilà. Donc là, nous avons le Deutéronome qui tient compte du souvenir des expériences passées pour le peuple d'Israël. Mais au niveau des chrétiens, il y a des lois qui ont changé et des lois qui sont obsolètes, qui n'ont plus rien à voir avec. Mais ça nous donne un élément de compréhension des choses. Et ici, le fer, eh bien, c'est la marche. Une fois que nous avons ces lois, nous marchons par ces lois, nous pouvons eh bien, être en autorité, hein, sur le monde qui nous environne. Hein. La conscience aussi, eh bien, je le dessine par un cercle, hein, où ça nous donne la vision, hein, la vision de la manière dont nous pouvons eh bien, éviter le mal, faire le bien. Hein, parce que nous gardons notre conscience éveillée sur les choses qui nous entourent. C'est la question de la justice, la question du jugement. Hein. Au verset 5, mais là j'ai pas le temps, il faudrait que je reprenne ce message une autre fois. Je vais terminer mon modèle ici. Donc si vous faites ça, voilà, vous avez un petit bonhomme là. Et vous ? Voilà, vous avez un petit bonhomme. Voilà. Donc moi, je me rappelle ça comme ça. Hein. Un petit bonhomme qui marche, son esprit, eh bien, il est rempli du Saint-Esprit. Il tient compte de la loi de Dieu. Hein. Il tient compte des lois qui sont justes, hein, qui sont établies. Il a une vision et il a une mission. Il peut accomplir, Jésus nous a donné une mission. Hein. Là, il a la foi. Là, il a la loi. Voilà. Et il marche par l'Esprit de Dieu. Amen. Si nous ne voulons pas, et je termine là-dessus, tomber dans l'apostasie, et encore moins aussi dans l'anomie, nous avons besoin d'exercer la foi dans la parole de Dieu. Parole immuable. De Dieu. Nous avons besoin de nous conformer aux lois que le que dans notre vie, hein, par exemple la loi dans laquelle travaille par exemple Alexis, dans le monde de la publicité, etc., pour être intègre et tout ça, n'est pas la même que celle d'Yves ou celle de Laurence. Enfin, vous voyez, il y a des lois aussi dans lesquelles nous sommes et nous devons en tenir compte, et le Seigneur donne l'intelligence pour adapter. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner un code au niveau de l'Église, vous faites ceci, vous faites cela au travail, etc. Nous devons tous nous placer devant le Seigneur et savoir, au travers de notre conscience, qui est juste, qui n'est pas juste. Mais c'est le critère de la vérité, le critère de la justice. Jésus-Christ a dit « J'agis selon la justice, selon la vérité. » Et Jésus est la vérité. Et la vérité permet de tracer les choses. C'est pour ça que dans une église aussi, c'est bien d'avoir des gens qui se retrouvent par cours de métier, pour pouvoir prier là-dessus, pour savoir par rapport aux lois qui les entourent, comment ils peuvent se comporter, etc. Parce qu'il faut adapter aussi la parole de Dieu dans les circonstances dans lesquelles nous vivons au quotidien. Amen. Je veux résumer peut-être cet enseignement en disant que par exemple, je prends le torrent qui purifie, oui, j'ai pensé à ça. Voyez-vous, Nathalie François disait que on peut passer plusieurs fois dans le torrent. Hein, le torrent. Pourquoi ? Parce que le torrent, c'est quelque chose qui nous renouvelle, parce qu'elle nous rappelle comment nous devons nous comporter en tant que chrétiens. Et ce qui est important, c'est pas simplement de suivre les enseignements, mais aussi de pratiquer les devoirs, les disciplines. C'est pour ça que j'aime bien ce processus du torrent qui nous emmène dans des choses très concrètes pour pardonner, pour changer. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des appels très souvent dans l'Église pour qu'on puisse se positionner, non pas simplement par rapport à ce que nous comprenons dans notre pensée, mais dans notre expérience, que nous puissions réajuster les choses. Et c'est le réajustement de ces choses qui permet que la conscience sache toujours ce qui est bien, ce qui est mal. Et pour le faire, de manière à ce que nous puissions faire selon la justice, agir selon la justice. Et là, l'ennemi ne pourra pas nous atteindre. Et souvent, les chrétiens, ils cherchent des manières d'échapper à l'ennemi. L'ennemi, il est puissant. L'ennemi, il est fort. Mais il est fort que dans la mesure où nous lui laissons des forces. Voyez-vous, c'est un peu comme un aimant. Moi, je vois ça comme un aimant. Si vous avez déjà fait l'expérience, vous mettez des limailles. Enfin, des choses qui sont légères sur une table. Vous mettez du fer, l'aluminium, du plastique et tout ça. Vous passez l'aimant. Qu'est-ce qui va rester à l'aimant ? Il va être de quoi ? Il faut préciser. Pas de l'aluminium. La limaille de fer. Ah oui, j'ai pas entendu dessus. Vous voyez, quand vous passez dessus, il n'y a que le fer qui peut être aimanté. Tout le reste, ça va rester. Si vous êtes la limaille de fer, vous allez être accroché par l'ennemi. Voyez-vous, si vous avez, c'est pour ça que Jésus a dit, je vais donner ma vie. Mais donner sa vie à la croix, c'était pas rien. C'était pas rien. Parce que l'ennemi, il est malin. Hein. Il voulait coincer Jésus jusqu'à la fin. Parce qu'il savait que c'était sa mort. Il a tout fait. C'est pour ça que Jésus a agonisé juste avant la croix, à Golgotha, dans le mont du Calvaire. Et il a dit à ses disciples, mais vous pouvez même pas veiller une heure avec moi. Parce que c'était intense. Vous voyez, quand vous êtes dans un combat intense, il y a un poids énorme. Je peux vous assurer, un poids énorme qui vient sur vous. Parce qu'il y a les puissances de ténèbres qui veulent vous empêcher de remporter une victoire. Et Jésus, il allait remporter la victoire de toute l'humanité. Et l'ennemi, quand il vient, il y a des puissances infernales qui viennent pour vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Sachez, ne prenez pas souvent les oppressions que vous avez comme des attaques démoniaques pures. Ça peut être des attaques justement qui peuvent vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc là, il faut persévérer. Vous voyez, il faut persévérer. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est là que vous développez votre ténacité, votre capacité de résister, et vous développez votre caractère divin. Parce que vous passez par un processus de purification. Et Jésus, à ce moment-là, eh bien, les disciples ne pouvaient pas résister, ils tombaient de sommeil. Et souvent, si vous avez remarqué, quand vous voulez combattre, des fois, vous tombez de sommeil. Hein, parce que l'ennemi, il est là. Et il vous empêcher de remporter la victoire. Mais sachez que là, il faut résister. Il faut résister. Il faut dire non. Je veux, vous levez, vous voyez, vous restez pas couché parce que là, vous endormez. Parce qu'il y a un combat pour remporter la victoire. Et Jésus a dit, l'ennemi n'a rien en moi. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas endormi. Jésus a pu tenir pour aller jusqu'à la croix parce que cet aimant qui venait sur lui, eh bien, il n'y avait rien, donc il restait inerte, vous voyez. Mais très souvent, nous, on a un tas de choses qui sont pas bonnes devant Dieu. Donc du coup, on se laisse prendre, on se laisse avoir, on est abattu, on est ceci, cela. Je ne dis pas que tout s'explique par ça. Hein. Il y a des maladies purement physiques, c'est autre chose. Mais je parle d'un combat spirituel. Et là, on voit les puissances qui viennent. Donc, sachons résister et surtout se préparer. C'est pour ça le torrent qui purifie nous prépare à des grandes victoires. Amen. Parce que plus nous sommes débarrassés de ce que l'ennemi veut utiliser pour nous attirer et pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout, et bien plus nous pourrons le réaliser. Et c'est ce que Jésus a fait, c'est notre modèle et nous voulons le suivre. Donc, ce qui t'importe, par exemple, dans le torrent, pour ceux qui n'ont pas pu le faire correctement, refaites-le quand on va arriver, parce qu'il y a des anciens qui se préparent à prendre l'église partenaire pour libérer les gens, pour libérer les chrétiens, pour que nous ne soyons pas dans l'apostasie, pour que nous ne suivions pas ce courant, parce que ce courant est en train de monter. Le nouvel âge rentre dans les églises, hein, de partout. Donc nous voulons vraiment être des hommes et des femmes de foi. Amen. Parce que des hommes et des femmes de foi, ils remportent toutes les victoires, tous les combats sont remportés par la foi. Amen. C'est la seule chose que le Seigneur nous a donnée comme un héritage qui ne peut pas se corrompre ni se flétrir. C'est par la foi que nous vaincrons et c'est par la foi que nous remportons les victoires. Amen. Et pour cela, il faut nous préparer. Amen. Il faut nous préparer, le Seigneur nous aide à nous préparer. Donc si nous sommes de ce petit bonhomme, hein, qui avons notre conscience aiguisée par la vision de Dieu, que notre conscience reste vive, que nous marchons par la foi, que nous respectons la loi de Dieu, eh bien nous pouvons accomplir notre mission. Amen. Nous pouvons agir avec autorité. Et dans le nom de Jésus, nous pouvons remporter toutes les victoires. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Elle nous conduit, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, à obéir à ta parole. Parce que, Seigneur, tu as dit et tu accompliras. Seigneur, ta parole ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous te louons pour cela. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de ne pas tomber ou d'être entraîné par l'apostasie de ce monde dans les églises ou par l'homme sans loi, Seigneur, par, Seigneur, l'anomie. Seigneur, nous voulons vraiment être, Seigneur, en toi et être porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur. Et nous te disons merci parce que, Seigneur, tu nous donnes la vie, Seigneur. Tu nous aides, Seigneur, à ne pas nous endormir, mais, Seigneur, à rester debout pour que nous puissions intercéder, pour que nous puissions être, Seigneur, des veilleurs, Seigneur, qui veillent et sur nos familles, sur nos bien-aimés, sur tous ceux qui sont autour de nous, afin que nous puissions leur apporter la parole de Dieu. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce pour ta bonté, ton amour, dans le précieux nom de Jésus. Amen.